VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Crise migratoire en Méditerranée centrale, le navire humanitaire Alan Kurdi a secouru 44 nouveaux migrants qui se trouvaient en détresse au large de la Libye. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'ONG allemande CIA en soulignant que l'île de Malte a accepté de les accueillir. Les migrants originaires de Syrie, de Libye, du Pakistan et du Bangladesh ont déclaré avoir commencé leur odyssée samedi matin à Zouara, un port libyen à 120 km à l'ouest de Tripoli. Dimanche soir déjà, 65 autres migrants secourus par la langue kurde étaient arrivés à Malte en vue d'être répartis entre différents pays européens. Le problème des réfugiés en Afrique même, les réfugiés centrafricains au Cameroun restent réticents à l'idée de retourner chez eux. Ils disent ne pas se sentir suffisamment en sécurité malgré l'accord de paix conclu en février entre 14 groupes armés et le gouvernement centrafricain. Mais après des mois de négociations avec le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et aussi les autorités camerounaises, 285 000 réfugiés centrafricains ont finalement accepté de rentrer en RCA. De Yaoundé, le récit de Moki Edwin Kinzeka est rendu par Eric Manirakiza.
Florence Yaoundé a 49 ans. Elle a perdu son mari dans la ville de Mingala, en Centrafrique, pris entre les feux rebelles et des troupes gouvernementales il y a 4 ans. Florence a choisi le Cameroun comme terre d'exil pour sa sécurité.
J'ai les diplômes, mais je ne peux pas travailler. Quand je pars chercher le travail quelque part, là, personne ne peut me prendre. Donc, c'est la guerre dans mon pays d'origine, la RCA. Les enfants ne pourraient pas vivre du coup. On dépend des gens. La seule chose que je peux faire et que j'ai appris étant au pays, c'est de faire le COSAM.
La Centrafrique est secouée par des violences depuis 2013. Les rebelles de la CEDECA, principalement musulmanes, ont renversé le président François Bozizé, provoquant des représailles de la part de milices principalement chrétiennes. En février dernier, le gouvernement a conclu un accord de paix avec 14 groupes armés à l'issue de pourparlers soutenus par l'Union africaine à Khartoum. Cet accord est censé ouvrir la voie à la stabilité et déboucher sur un accord entre Bangui, Yaoundé et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en vue de faciliter le retour des Centrafricains réfugiés au Cameroun. Mais seuls 6 000 ont jusqu'à présent accepté de retourner chez eux. La plupart d'entre eux, comme Yaoundé, refusent de retourner en Centrafrique, invoquant les craintes de violence dans certaines régions du pays. La ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation, Viviane Baïkoua, les exhorte tout de même entrée. La RCA a besoin de tous ses citoyens pour aider à développer leur communauté et la nation entière, assure-t-elle.
Ce qu'il faut retenir, c'est que nos compatriotes, ceux qui veulent rentrer, vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine.
De son côté, Bouti Kalé, représentant du HCR en Centrafrique, affirme que les violences ont baissé dans les zones ouest et sud-ouest de ce pays, particulièrement depuis la signature de la
Je ne dirais pas que tout est parfait, mais je dirais que pour tous ceux qui souhaitent rentrer, il y a des chances qu'ils soient bien réinsérés dans leur région d'origine.
Mais plusieurs groupes armés ont rejeté le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra, car seuls 6 des 14 groupes armés ayant signé l'accord de paix en sont membres. Les sceptiques doutent de l'efficacité de cet accord, rappelant ce de 2014, 2015 et 2017 qui sont rapidement tombés à l'eau. L'ONU affirmait que plus de 600 000 Centrafricains sont toujours réfugiés dans les pays voisins, tandis que plus de 650 000 sont des déplacés internes.
Merci Eric Manirakiza. Afrique centrale toujours, la Cour pénale internationale de La Haye a reconnu hier Bosco Ntaganda, l'un des seigneurs de guerre de la province de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Edi Sango a joint à Kinshasa Paul Nsapou, le secrétaire général adjoint pour l'Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et il lui a demandé à quoi pouvaient s'attendre les victimes de Bosco Ntaganda.
Les victimes doivent s'attendre à des jours des avocats des uns et des autres, ainsi que les interventions du procureur. Mais ce qui est plus important, c'est le fait que ces victimes, à travers leurs avocats, doivent s'organiser de sorte que toutes les matières qui leur seront présentées par les juges aient la possibilité d'être examinées et vérifiées par toutes les parties. Et donc, renvoyer quelqu'un en justice, c'est tout simplement demander la fixation de l'affaire au niveau de la Cour, et la Cour pourra alors se lancer dans une série de procès, d'audiences, qui vont prendre beaucoup de temps. Si le temps qu'il faut pour ce procès peut être élastique à la Cour pénale internationale, c'est en termes d'années. Donc il faut s'attendre encore à quelques années pour aboutir au verdict de cette affaire.
Paul Nsapou, secrétaire général adjoint de la FIDH pour l'Afrique, joint à Kinshasa en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes au Mali maintenant. Le Royaume-Uni a annoncé le maintien de sa présence dans le pays pour 6 mois de plus dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, où les attaques des djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplie. Londres a déployé 3 hélicoptères Chinook et 1 centaine d'hommes au Mali depuis juillet 2018. Ils y resteront jusqu'en juin 2020, a déclaré ce mardi un porte-parole du ministère britannique de la Défense. Relations France-Afrique, le président français Emmanuel Macron, qui reçoit jeudi son homologue ghanéen, tiendra le même jour un grand débat avec quelques 400 personnes issues des diasporas africaines de France, à savoir africains résidents en France, binationaux et français d'origine africaine, engagés dans les relations entre la France et le continent africain. C'est ce qu'a annoncé la présidence française. Cet échange interactif aux côtés du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, vise à présenter un tableau plus complet des échanges et des enjeux avec le continent africain, expliquer pourquoi le président de la République française consacre autant de temps à la relation avec l'Afrique et où il veut arriver, souligne le communiqué de la présidence. Au Ghana même, la mobilisation populaire a eu raison d'un projet des autorités de doter le Parlement de nouveaux sièges qui auraient coûté 200 millions de dollars. Les précisions de Lionel Gaïma.
La campagne Drop That Chamber, renoncer à cette chambre, a mobilisé sur les réseaux sociaux des milliers de Ghanéens hostiles au projet. Une manifestation populaire était prévue samedi à travers le pays. Cette colère populaire a contraint les autorités ghanéennes à jeter l'éponge. Nous sommes une institution à l'écoute et après avoir évalué les opinions des gens, nous avons décidé de renoncer à l'idée, a déclaré Kate Addo, directrice par intérim des affaires publiques du Parlement. Les autorités ghanéennes avaient estimé qu'un nouveau Parlement pouvant accueillir jusqu'à 450 députés était nécessaire pour remplacer le siège actuel de 275 places. Le financement des travaux allait être assuré par un prêt de l'Inde. À l'appui de ce projet, la constitution ghanéenne qui prévoit d'augmenter tous les 10 ans le nombre de circonscriptions pour tenir compte de la croissance démographique. Le Parlement n'a pas besoin d'un nouveau siège, a fait savoir à la société civile ghanéenne qui maintient la marche de samedi tant que les législateurs n'auront pas pris une résolution officielle annonçant l'abandon du projet.
Dossier nucléaire iranien, l'Iran affirme produire maintenant de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, donc au-delà de la limite autorisée par l'accord nucléaire conclu à Vienne en Autriche en 2015. Téhéran a également mis en garde les Européens hier contre toute réaction susceptible d'envenimer la situation. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a de son côté confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à celui autorisé par l'accord. Pour sa part, l'Union européenne a appelé l'Iran à cesser et à revenir sur ses activités qui sont contraires aux engagements pris dans le cadre de l'accord, soulignant qu'elle était très préoccupée. Le président américain Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, qui dépêche à Téhéran son conseiller diplomatique pour œuvrer à une désescalade. Lundi, le porte-parole des affaires étrangères Abbas Moussavi a adressé une mise en garde à Paris, Londres et Berlin. Si ces trois capitales devaient se comporter de manière inattendue, alors nous souhaiterions toutes les étapes suivantes du plan de réduction des engagements annoncé en mai et nous mettrions en œuvre la dernière, a-t-il dit, sans préciser la nature de cette ultime étape.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le département de la sécurité intérieure a demandé lundi 1000 soldats supplémentaires pour l'aider à gérer la crise des migrants au Texas, un état frontalier du Mexique où les conditions de rétention des clandestins ont choqué jusqu'à la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet.